Alors, je continue donc l'évangile de Marc. Et la dernière fois, vous vous rappelez là où on s'est arrêté, donc c'était là où Jésus a chassé les marchands du temple. Et on voyait bien, c'est rare qu'on voit Jésus en colère, en tout cas là il était, puisqu'il s'agissait de la maison de son père, qui était foulée aux pieds par des... Par quoi ? Par les marchands du temple, qui cherchaient à quoi faire ? À faire de l'argent. Et l'argent, c'est un gros problème, on va encore le voir aujourd'hui. Je crois que l'homme, il a... Les trois gros problèmes qu'on doit combattre, c'est pour un homme, et pour un homme, c'est la mauvaise utilisation de la sexualité. Là, il n'en est pas question dans ce passage-là. Ce dont il est question, et ce qu'on doit tous combattre, c'est la soif de pouvoir et la soif d'avoir toujours plus d'argent. Alors, j'ai intitulé mon message « Maître ou Seigneur ?» Jésus est-il un maître enseignant ? Où est-il le Seigneur de nos vies? Et donc, on va voir donc que, eh bien là, on est donc pendant la Semaine Sainte à Jérusalem, donc, et on se trouve le lendemain où Jésus a chassé les marchands du temple. Et Jésus, avec ses disciples, se promène dans le temple et voilà que des chefs religieux juifs vont l'assaillir de questions. Donc je vous invite à reprendre l'évangile de Marc au chapitre 11 à partir du verset 27. Je ferai la lecture en plusieurs temps. Et premièrement, je vais lire du Marc 11 verset 27 jusqu'au verset 33. Donc Marc 11 verset 27 à 33. Ils se rendirent de nouveau à Jérusalem et pendant que Jésus se promenait dans le temple, les principaux sacrificateurs, les scribes et les anciens vinrent à lui et lui dirent: par quelle autorité fais-tu cela et qui t'a donné l'autorité pour le faire? Jésus leur répondit: je vous poserai une seule question, répondez-moi et je vous dirai par quelle autorité je fais cela. Le baptême de Jean venait-il du ciel ou des hommes? Répondez-moi. Mais ils raisonnèrent ainsi entre eux: si nous répondons du ciel, il dira: pourquoi n'avez-vous donc pas cru en lui? Et si nous répondons des hommes, ils craignent le peuple, car tous tenaient Jean pour un véritable prophète. Alors ils répondirent: nous ne savons pas. Et Jésus leur dit: moi non plus, je ne vous dirai pas par quelle autorité je fais cela. Amen. Dans ce passage et dans d'autres qui vont suivre, eh bien, ressort cette vérité que, on a parlé de soumission tout à l'heure, eh bien là il est question de soumission. La soumission à qui est due la soumission? La soumission est due au propriétaire. La soumission est due au propriétaire. Soumission propriétaire. Premièrement, ce texte, eh bien, nous montre, mon premier point, que Jésus, il est l'héritier du Père et il est le propriétaire de sa maison. Le temple est propriétaire de son peuple. Donc mon premier point, Jésus, l'héritier du Père, est le propriétaire de sa maison et de son peuple. Question donc posée à Jésus par les chefs religieux. Par quelle autorité fais-tu cela et qui t'a donné l'autorité pour le faire? Sous-entendu, tout ce qu'ils ont vu au préalable, chasser les marchands du temple, etc. Sous-entendu dans cette question, quelle est la source de son autorité à Jésus? D'où tient-il son autorité pour avoir purifié le temple? Et puis derrière cette question, des pharisiens se cachent toutes les autres questions qui les brûlent. D'où tient-il son autorité déjà pour avoir remis en question leur autorité? Et puis, d'où tient-il son autorité pour entrer triomphalement à Jérusalem? D'où tient-il son autorité pour avoir exercé tout son ministère depuis ces trois dernières années? Ministère d'enseignement, de guérison, de miracle, de chasser des démons. Derrière cette question se casse, cette question se rapporte à tout le ministère de Jésus. Et là, eh bien, le Messie qu'ils attendaient ne correspondait pas à Jésus. Hein. Parce qu'à leur avis, si Jésus était le Messie, eh bien, il aurait mieux fait de s'occuper de chasser les Romains, de s'attaquer à l'occupant romain plutôt qu'à s'occuper de leurs affaires, aux affaires religieuses. Mais même en réalité, les chefs religieux ne cherchaient pas à protéger le peuple. Ce qu'ils veulent, c'est protéger leurs propres intérêts et prendre Jésus au piège. Et Jésus va les éviter par une sagesse merveilleuse, sa sagesse divine. Alors qu'est-ce que va répondre Jésus? Par quelle autorité fais-tu cela et qui t'a donné l'autorité pour le faire? Supposons, si Jésus avait déclaré aux chefs religieux que son autorité venait de Dieu, et c'est vrai, S'il avait dit cela, les chefs religieux qui ne croyaient pas en lui l'auraient accusé de blasphème, ce qui s'était déjà passé auparavant. A contrario, s'il avait dit que son autorité venait des hommes, c'est faux, et ça aurait été de la fausse humilité, parce que son autorité vient de Dieu. S'il avait dit que son autorité venait des hommes, il se serait discrédité aux yeux de son peuple. Il se serait discrédité. Son autorité vient de Dieu. Alors il va pas le dire aux chefs religieux, mais il va utiliser une tactique qui va les désarmer. Jésus a une autorité, il n'a pas nié avoir une autorité. Parce que s'il avait nié avoir une autorité, il se serait renié lui-même. Alors que va faire Jésus? Eh bien Jésus va, pour reprendre l'expression, botter en touche. En répondant à leur question par une autre question qui va faire porter l'attention sur qui? Non plus sur lui, il va décentrer l'attention, il va faire passer l'attention de lui vers Jean-Baptiste. À laquelle il leur demande de répondre. Le baptême de Jean-Baptiste, venait-il du ciel ou des hommes? En d'autres termes, Jean-Baptiste était-il mandaté par Dieu pour faire ce qu'il a fait, pour prêcher la repentance? Alors les chefs religieux, ils vont se concerter entre eux, et de façon très calculatrice, eh bien, entre eux, eh bien, on comprend qu'ils n'ont pas cru en Jean-Baptiste. Ils le disent clairement, leurs paroles nous sont rapportées. Ils n'ont pas cru en Jean-Baptiste. Et s'ils n'avaient pas cru en Jean-Baptiste, que son ministère venait de Dieu, comment aurait-il cru en Jésus, celui qui est plus élevé, dans celui qui est le Messie, établi par Dieu pour nous sauver, et qui a fait tant de miracles? Ils n'ont pas cru en Jean-Baptiste. Comment pouvaient-ils croire en Jésus, qui est beaucoup plus haut que lui? Alors ils ne répondent pas à Jésus. Jésus qui ne leur répond pas non plus. Jésus refuse de justifier son autorité auprès des hommes. Il est au clair, il sait qui il est le Fils de Dieu, il n'a pas à se justifier auprès des hommes. Son autorité lui vient de Dieu. C'est vrai pour lui. Mais on peut se poser une autre question. L'autorité des chefs religieux dont il est question ici, de qui venait-elle? On peut poser la même question, on peut, entre nous, est-ce que l'autorité des chefs religieux venait-elle de Dieu? Après tout, ils auraient pu répondre à Jésus que eux aussi leur autorité venait de Dieu. Donc, pas de compte à rendre à personne. Mais ce n'était pas le cas. Ils ont clairement compris que leur autorité ne venait pas de Dieu. Et pour cause. Pourquoi? Parce qu'ils ont refusé de croire en Jean-Baptiste. Ils n'ont pas cru en Jean-Baptiste qui prêchait la repentance. Alors, ils ont feint l'ignorance, ils ont gardé le silence, et en gardant le silence, eh bien, ils étaient désarmés. Ils n'ont pas pu accuser Jésus. Ils n'ont pas pu contester l'autorité de Jésus qui lui venait de Dieu. Jésus a réussi à les confondre. Les chefs religieux, clairement, ils n'ont pas pris position, alors qu'ils auraient dû prendre position. Les chefs religieux, ce sont ceux qui enseignaient le peuple. Mais ils n'ont pas pris position, même pas pour Jean-Baptiste. Ils se sont discrédités eux-mêmes. Eux, les docteurs de la loi, eux, chargés d'instruire le peuple, leur silence les a discrédités. Alors, qui dit autorité dit soumission. Et nous sommes tous, qu'on le veuille ou pas, nous sommes tous soumis à quelqu'un ou à quelque chose. Et la soumission, ce que nous apprend ce texte, c'est que la soumission est due au propriétaire. La soumission est due au propriétaire. Lorsque vous êtes chez vous, vous êtes sous votre toit. Vous avez autorité. Autorité sur ce qui se passe sous votre toit. Vous avez autorité sur vos biens. Chez vous. La soumission est due au propriétaire. Jésus est le Fils de Dieu. Le temple lui appartient, c'est sa maison, la maison de son Père. Il est l'héritier du Père. Le temple lui appartient. Il a reçu autorité de Dieu, le Père, à qui, on l'a entendu ce matin, à qui il était totalement soumis. Jésus était totalement soumis à Dieu son Père. Et c'est de lui qu'il tient toute autorité. Il était soumis et il avait toute autorité. Quand on est soumis, quand on a autorité sur quelque chose, on est soi-même soumis à quelqu'un. Mais les chefs religieux ne se sont pas soumis au propriétaire. Les chefs religieux ne se sont pas soumis à Jésus, le propriétaire. Et Jésus va tout de même répondre à leurs questions. Il va les accuser indirectement par une parabole, qui est la parabole du vigneron qui suit juste après. Cette parabole qui nous rappelle que les locataires doivent être soumis à leur propriétaire. Les locataires doivent être soumis à leur propriétaire, sinon c'est du vol. Sinon c'est du vol. Alors mon deuxième point, les voleurs ne se soumettent pas aux propriétaires. Les voleurs ne se soumettent pas aux propriétaires. Je continue ma lecture. Marc chapitre 12, à partir du verset 1, et je lirai jusqu'au verset 12. Marc 12, 1 à 12. Jésus se mit ensuite à leur parler en parabole. Un homme planta une vigne, il l'entoura d'une haie, creusa un pressoir et bâtit une tour. Puis il la loua à des vignerons et partit en voyage. La saison venue, il envoya un serviteur vers les vignerons pour recevoir de leur part des fruits de la vigne. Ils le prirent, le frappèrent et le renvoyèrent les mains vides. Il envoya de nouveau vers eux un autre serviteur. Ils le frappèrent à la tête et l'outragèrent. Il en envoya un troisième qu'ils tuèrent, puis plusieurs autres qu'ils battirent ou tuèrent. Seul son fils bien-aimé lui restait. Il l'envoya vers eux le dernier en disant « Ils respecteront mon fils ». Mais ces vignerons se dirent entre eux « C'est lui l'héritier, venez, tuons-le et l'héritage sera à nous ». Ils le prirent, le tuèrent et le jetèrent hors de la vigne. Que fera le maître de la vigne ? Il viendra, fera périr les vignerons et donnera la vigne à d'autres. N'avez-vous pas lu cette parole de l'Écriture ? La pierre qu'ont rejetée ceux qui bâtissaient est devenue la principale, celle de l'angle. C'est du Seigneur que cela est venu et c'est une merveille à nos yeux. Ils cherchaient à se saisir de lui, mais ils craignaient la foule. Ils avaient compris que c'était pour eux que Jésus avait dit cette parabole. Ils le quittèrent et s'en allèrent. Une parabole, donc, où il est question d'un homme qui planta une vigne. L'homme, eh bien, qui planta cette vigne, il représente Dieu. Il fait penser à Dieu. La vigne, eh bien, c'est le peuple de Dieu, Israël. Cette haie qui entoure la vigne, ça nous fait penser à une haie de protection. Eh bien, cette haie, c'était la, ça nous fait penser à la loi de Moïse. La loi de Moïse qui faisait du peuple hébreu, du peuple juif, un peuple différent des autres peuples, qui devait se démarquer des autres peuples. C'était la loi donnée par Dieu à Moïse pour instruire le peuple, qui devait les différencier des autres peuples, des païens. Cette haie aussi était une haie de protection pour Israël. Le pressoir, c'est la cuve où s'accumule le jus de raisin pressé. Et la tour, eh bien, en haut de la tour, il y avait quoi ? Il y avait une sentinelle pour garder la vigne contre d'éventuels envahisseurs. Tous ces éléments qui sont autant de preuves des soins constants que le maître de la vigne a portés sur sa vigne. Autant de soins constants. Et les vignerons, qui étaient des locataires, eh bien, c'était les chefs religieux, les pharisiens, les scribes, les anciens, chargé donc de soigner cette vigne. Et cette parabole, elle fait écho à un autre texte en Ésaïe, chapitre 5, versets 1 à 7. Je lirai juste verset 7. Ce sont deux textes qui sont similaires, mais qui nous éclaircissent, qui nous éclairent. Et donc le verset 7 de Ésaïe, chapitre 5, qui parle de la vigne. La vigne de l'Éternel des armées, c'est la maison d'Israël. Verset 7. La vigne de l'Éternel des armées, c'est la maison d'Israël. Et les hommes de Juda, c'est le plan qu'ils chérissaient. Ils avaient espéré de la droiture, et voici, du sang versé, de la justice, et voici, des cris de détresse. Si on met en rapport ces deux textes, clairement, la mauvaise santé d'Israël était due au mauvais état, à la mauvaise attitude des chefs religieux. Les deux sont étroitement liés. Si Israël était malade, c'est parce qu'ils avaient des chefs qui ne se soumettaient pas à Dieu, qui ne se soumettaient pas aux propriétaires. Les chefs religieux avaient oublié qu'ils ne sont que des locataires, et que Dieu est le propriétaire de sa vigne qui représente son peuple. Le maître de la vigne avait laissé en location, en fermage, on dit, hein, pour quand un agriculteur loue ses terres à quelqu'un, pour cultiver ses terres, ça s'appelle mettre en fermage la terre. Eh bien, le propriétaire il leur avait laissé en fermage, le chef religieux, la vigne. Pourquoi faire ? Pour instruire le peuple de Dieu, pour diriger le peuple de Dieu dans le culte afin d'en recueillir des fruits. Et quand est venu le moment d'en recueillir les fruits, eh bien, le maître de la vigne a envoyé des serviteurs. Et ces serviteurs, ce sont les prophètes. Les prophètes que Dieu a envoyés à Israël tout au long de son histoire au cours des siècles. Il n'y en a pas eu un, il y en a eu plusieurs. Hein. Ils sont dans votre Bible. Ces prophètes. Dieu a envoyé ses prophètes pour recueillir le fruit d'Israël. Et pour avertir le peuple quand il s'égarait. C'était les prophètes qui ramenaient le peuple à la raison, qui rappelaient au peuple la loi du Seigneur pour en recueillir les fruits. Un fruit que Dieu attendait, le fruit que Dieu attendait, qu'il attendait tellement de son peuple, c'était un fruit de repentance, un fruit d'amour, un fruit de sainteté, un fruit de justice, un fruit de vérité, un fruit de reconnaissance. Mais la parabole du figuier qui précède juste avant, qu'on a vue la fois d'avant, montre que Israël n'a pas porté de fruits. Le figuier a représenté Israël, il n'y avait pas de figue sur ce figuier. Cette vigne, il n'y a pas eu de fruits. La parabole du figuier a confirmé le manque de fruits chez Israël. Les prophètes chargés de venir recueillir le fruit ont été mal reçus. Ils ont été persécutés, même frappés, même assassinés. Jusqu'au dernier, et le dernier prophète, c'était qui ? Jean-Baptiste. Jean-Baptiste, qui a été décapité. Tué par Hérode. Pourquoi ? Pourquoi ce sort réservé aux prophètes ? Eh bien parce que les locataires ne voulaient pas se soumettre aux propriétaires. Les locataires ne voulaient pas se soumettre aux propriétaires de la vigne. Les locataires voulaient s'approprier de force ce qui appartenait au maître de la vigne, c'est-à-dire la vigne. Les locataires voulaient s'approprier ce qui ne leur appartenait pas. Et comment ça s'appelle quand on veut prendre quelque chose de force qui ne nous appartient pas ? Ça s'appelle du vol. Quand ils volaient, ils ont volé le peuple de Dieu, la vigne de l'Éternel. Pourquoi faire ? Eh bien, pour s'enrichir sur leur dos. En utilisant quoi ? En utilisant ce qui est sacré, en utilisant le culte. Pour arriver à leur fin. Une fin qui était rien d'autre que de la convoitise, de vouloir s'enrichir de plus en plus. Et la religion est très souvent un moyen qui est utilisé pour l'amour de l'argent, pour s'enrichir. Alors il ne restait plus que quelqu'un à envoyer. Peut-être que celui-là, ils le respecteront. Et bien finalement, Dieu a envoyé celui qui n'est pas comme les autres, un serviteur. Alors, il n'est pas juste un serviteur, mais il va se rendre serviteur. Il va se rendre le plus grand serviteur. Celui qui est l'héritier. À qui devait revenir la vigne ? C'est lui que le maître va envoyer. Son propre fils, bien-aimé. Son fils qui est revêtu de toute autorité. Il est revêtu de l'autorité du Père. Ce fils qui s'est fait serviteur de tous. Il est appelé le fils bien-aimé du maître. Le fils bien-aimé du maître, le mot maître ici, il peut se traduire par seigneur. Dans le grec, kurios, seigneur. Le fils bien-aimé du Seigneur. Eh bien lui, le fils bien-aimé du Seigneur, il ne sera pas mieux reçu, ni même respecté. Ils vont le jetteront avec violence hors de la vigne, jusqu'à le tuer. Cette parabole, bien sûr, elle était prophétique. Par cette parabole, le Seigneur prédisait le rejet du Messie, par son propre peuple, sa propre mort atroce sur la croix, et son triomphe final par sa résurrection en gloire. Qui précédera le jugement futur d'Israël par la destruction de Jérusalem en l'an 70. Donc, parabole prophétique. Et les versets 10 et 11 reprennent mot pour mot une prophétie de l'Ancien Testament qu'on trouve dans le psaume 118, versets 22 à 23, que je vous relis. Versets 10, 11, ou psaume 118, 22, 23. « La pierre qu'on rejetait ceux qui bâtissaient est devenue la principale de l'angle. » C'est de l'Éternel que cela est venu, c'est un prodige à nos yeux. Alors ici, on passe de l'image de la vigne à l'image de la construction, de la construction. Ceux qui bâtissaient. Par cette parabole, Jésus désignait d'avance les coupables, ceux qui allaient se rendre coupables de sa mort et de sa crucifixion, même si c'est nous tous qui étions coupables. Par cette parabole, Jésus désignait d'avance les coupables et ils se sont reconnus. Ils ont parfaitement compris. Ceux qui bâtissaient, c'était eux, chargés d'instruire le peuple. Ils étaient chargés de bâtir le peuple de Dieu par l'instruction, la prédication fidèle de la parole de Dieu. C'était eux ceux qui bâtissaient. Mais dans leur plan de construction, ils avaient un plan de comploter, de rejeter le Messie, pour ne laisser aucune place à cette pierre. Ça, c'était leur plan, d'écarter cette pierre qui les gênait tellement, celui qui était l'héritier de la maison. Mais cette pierre qu'ils ont rejetée, elle va devenir la pierre principale de l'édifice. Elle va devenir la pierre angulaire. Vous savez, une pierre angulaire, c'est celle qui soutient tout l'édifice. Si vous l'enlevez, tout s'écroule. Cette pierre deviendra la pierre angulaire d'un édifice bien plus grand que le temple de Jérusalem, bien plus grand qu'Israël. Cet édifice, ça sera la maison de Dieu, dont nous faisons partie, les croyants de toute époque et de toute nation qui avons cru en Jésus. L'église de toute nation. Alors les chefs religieux, ils ont compris, parce que c'était vraiment ce qu'ils voulaient qu'il arrive à Jésus. Ils ont compris que Jésus parlait d'eux. Sans avoir été nommés, ils se sont reconnus. Et qu'est-ce qu'ils ont eu envie de faire? Eh bien, de passer tout de suite à l'action et de tuer, d'éliminer Jésus, pour qu'ils avaient tant de haine. Mais ce n'était pas encore l'heure. Le Seigneur n'a pas permis que ça arrive là, à ce moment-là. C'est lui qui décide, ça n'arriverait pas avant, son fils ne serait pas pris avant que lui l'ait décidé. Dieu est au contrôle. Alors, eh bien, les chefs religieux, ils le quittèrent et partirent. Cette histoire nous apprend que la vigne, il y aura une restitution. Elle va être restituée à son propriétaire. Et cette vigne, elle ne sera plus louée, comme ça avait été le cas pour Israël. Mais cette vigne, le propriétaire va la donner. Il va la donner à d'autres, qui seront les croyants de toute nation, nous. Et les religieux n'avaient pas compris que Dieu donne ce que eux voulaient prendre de force et qu'ils ont voulu voler. Dieu donne ce que les religieux voulaient prendre de force. Et Dieu va montrer qui il est. Comment est-ce possible, justement, cette restitution? Comment est-elle possible? Eh bien, il a fallu payer une rançon, une forte rançon. Qui a payé pour que cette restitution ait lieu? De ce que les religieux avaient volé. Et bien, mon troisième point, et je vais continuer ma lecture, là, mon troisième point concerne la restitution. La restitution de quoi? De qui? De nous. Jésus nous a restitués à Dieu le Père en faisant de nous ses héritiers. Jésus, l'héritier, nous a restitués à Dieu le Père en faisant de nous ses héritiers. Je continue ma lecture, chapitre 12, à partir du verset 13, et je lirai jusqu'au verset 17. Ça sera le passage qui terminera notre passage pour aujourd'hui. Chapitre 12, verset 13. Ils envoyèrent auprès de Jésus quelques-uns des pharisiens et des hérodiens afin de le prendre au piège de ses propres paroles. Il vint lui dire, « Maître, nous savons que tu es vrai et que tu ne redoutes personne. » car tu ne regardes pas à l'apparence des hommes, et tu enseignes la voie de Dieu selon la vérité. Est-il permis de payer le tribut à César? Devons-nous payer ou ne pas payer? Jésus, qui connaissait leur hypocrisie, leur répondit, « Pourquoi me mettez-vous à l'épreuve? Apportez-moi un denier afin que je le voie. » Ils en apportèrent un, et Jésus leur demanda, « De qui sont cette effigie et cette inscription? » « De César, » lui répondirent-ils. Alors il leur dit, « Rendez à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. » Et ils étaient dans l'étonnement à son sujet. Amen. Jusqu'ici, la parole de Dieu. Alors, c'est les chefs religieux qui étaient concernés par la parabole. Ils ont été confondus par Jésus, mais ils ne s'arrêtent pas là. Ils vont envoyer vers Jésus pour le confondre. Eh bien, d'autres religieux, qui sont les pharisiens et les hérodiens, qui vont essayer, ils vont donc, c'est leur riposte, hein, ils ne s'arrêtent pas là. Toujours pour essayer de confondre Jésus. D'ordinaire, les pharisiens et les hérodiens sont ennemis. Mais quand il s'agit de se mettre contre Jésus, ils sont amis. dans une même haine contre Jésus. Ce qui nous fait réfléchir à la véritable amitié. Hein. Là, ils sont c'est leur haine contre une même personne qui les rend amis. Et c'est la deuxième fois qu'ils se mettent ensemble dans l'évangile de Marc, on avait vu chapitre 3, verset 6. Ils avaient, au début de l'évangile, ils s'étaient déjà mis ensemble pour se mettre contre Jésus. Il l'appelle maître, vous avez remarqué, mais là, le mot maître n'est pas le même mot que dans la parabole du vigneron, le maître de la vigne. Dans la parabole du vigneron, le maître de la vigne, c'est le seigneur de la vigne, kurios. Ici, c'est pas le même mot, le mot maître veut dire enseignant. Alors, eh bien, ils veulent piéger cet enseignant. Comment ? Eh bien, en utilisant ses propres propos contre lui. Mais qu'est-ce qui va se passer ? Ce sont leurs propres paroles à eux qui vont se retourner contre eux. Tel est pris qu'ils croyaient prendre. Alors, dans leur approche, et déjà là, ils vont être confondus. Ils vont utiliser des compliments hypocrites, des flatteries, qui en même temps sont vrais concernant Jésus. C'est vrai. Jésus est vrai. Il enseigne la vérité. Il ne redoute personne. Et ils vont affirmer quelque chose qui va les confondre. Ils reconnaissent que Jésus ne regarde pas à l'apparence des hommes. Ce qui veut dire que Jésus voit dans le cœur. Et voit précisément dans leur cœur. Les pharisiens admettent que Jésus voit dans le cœur. Et ils sont en train de se mettre à nu devant le Seigneur. Qu'ils veulent confondre. Ça ne marche pas. Et effectivement, Jésus va mettre en lumière, en pleine lumière, leur hypocrisie qu'ils voient dans leur cœur. Alors, les voilà donc à poser cette question à Jésus. Est-il permis ou non de payer l'impôt à César ? Question qui porte encore sur quoi ? Sur l'argent. Sujet très cher aux chefs religieux. Très cher, on le voit. Hein. Et d'ailleurs, il y a deux sujets principaux qui les intéressent, comme je l'ai dit. Il y a le pouvoir et l'argent. C'est très souvent lié, le pouvoir et l'argent. Alors, payer l'impôt, personne n'aime ça. Hein. Personne n'aime ça. Mais à l'époque, pour des juifs, payer l'impôt était encore moins populaire parce qu'il s'agissait de payer l'impôt à qui ? À l'occupant romain, celui qui les avait asservis, celui qui avait vaincu le peuple d'Israël. Cet impôt, il était encore plus détesté par les juifs. C'était le symbole de leur asservissement, le symbole qu'ils avaient été vaincus par les Romains. Et ça leur rappelait quoi ? Cet impôt, qu'ils étaient sous la domination des Romains. Les Romains, César, étaient devenus leur maître, puisqu'ils les avaient vaincus. Alors cette question, qui voulait une question piège pour Jésus, Jésus va s'en dégager admirablement de par sa sagesse divine. S'il avait répondu oui, est-il permis ou non de payer l'impôt à César ? S'il avait répondu oui, eh bien, Jésus aurait été disqualifié comme Messie aux yeux des Juifs. Aux yeux des Juifs qui attendaient, qui détestaient l'occupant romain et qui voulaient que le Messie les libère de cet occupant romain. Ils voulaient s'en libérer. Et les chefs religieux voulaient vraiment que les Romains partent. Pourquoi ? Pour mieux manipuler le peuple. Les chefs religieux aussi voulaient se libérer de l'occupant romain. Mais Jésus n'a pas répondu oui, parce qu'il se serait discrédité aux yeux des Juifs, de son propre peuple. S'il avait répondu non, eh bien cette fois il aurait été disqualifié aux yeux des Romains. Non, il ne faut pas payer l'impôt à César. Alors là, il aurait été accusé de traîtrise par son propre peuple. Ces détracteurs juifs qui n'auraient pas manqué de le dénoncer et de le livrer pour le faire condamner comme traître. Jésus ne va répondre ni oui ni non, mais il va répondre par une illustration. Et il va s'adresser à leur conscience. Il va les faire réfléchir. Il va les faire réfléchir sur quoi ? Encore une fois, sur qui est le propriétaire ? Qui est le propriétaire ? À qui se soumettre ? La soumission est due au propriétaire. Alors il leur demande de lui amener une pièce romaine d'un denier. Et là, il s'agit de regarder. Il leur demande de qui sont l'effigie et l'inscription sur la pièce. Alors rien qu'en regardant, Pas besoin de réfléchir, hein. Rien qu'en la regardant, il voit que la pièce est à l'effigie de César, avec une inscription frappée par les Romains. Cette monnaie, elle a été créée par les Romains. Et cette monnaie, elle est utilisée par tout le monde en Israël. C'est la monnaie courante, c'est devenu la monnaie courante, ce denier romain. C'était la monnaie courante à l'époque. Et les chefs religieux n'ont pas contesté ici. Oui, cette pièce, elle vient de César. En disant que le propriétaire était César, et bien les chefs religieux reconnaissaient quoi ? Qu'ils avaient une dette envers les Romains. Et Jésus les a amenés là où il voulait. Il a confondu les chefs religieux qui ont reconnu que cette pièce, elle a été frappée par les Romains, donc elle leur appartient aux Romains. Les chefs religieux ont reconnu qu'ils avaient une dette envers qui ? Envers les Romains. Et que c'est donc à César, le propriétaire, qu'il fallait se soumettre. L'impôt, c'était donc pas un don fait aux Romains, mais c'était un dû. Et c'est toujours le cas aujourd'hui, je vais y revenir. L'impôt n'était donc pas un don donné, non, c'est un dû, c'est quelque chose qu'il devait au propriétaire. Et on comprend pourquoi, puisque l'impôt sert à quoi ? Déjà à l'époque, l'impôt servait à payer les routes, à payer les autres édifices que les Romains ont construits, et que les Juifs utilisaient aussi. Donc, pas question de refuser le paiement d'une dette qui était légale. Et là, les religieux, ils sont pas contestés ça. Pas question de refuser le paiement d'une dette qui était légale. Ce à quoi Jésus donc, va leur répondre qu'il faut rendre à César ce qui lui appartenait déjà. Et vous avez remarqué à la question, faut-il payer l'impôt ou faut-il ne pas payer ? Jésus ne va pas répondre qu'il faut payer ou il ne faut pas payer. Il va dire, rendez. Rendez au propriétaire, ça veut dire rendez au propriétaire ce qui lui appartient déjà. Rendre et non pas payer. La vision de cette pièce que Jésus leur a mis sous les yeux, ça aurait dû amener les chefs religieux à la repentance. Ça aurait dû les faire réfléchir. Ça aurait dû les amener au moins au regret et à reconnaître leur faute. Pourquoi ? Parce qu'ils avaient été vaincus par les Romains. Pourquoi les Juifs, les Israélites avaient-ils vaincus par les Romains ? À cause de leur désobéissance à Dieu. C'était à cause de leur infidélité et de leur désobéissance aux lois divines, à cause de leur péché. Les Israélites s'étaient mis eux-mêmes sous l'autorité d'un dictateur. D'un dictateur païen, à cause de leur désobéissance, de leur péché. Et non plus sous l'autorité divine de celui qui les aimait. Ce sont eux-mêmes qui se sont mis sous l'autorité des Romains, d'un dictateur païen. Parce qu'ils n'ont pas voulu se soumettre à Dieu. La soumission est due au propriétaire, même si tout appartient à Dieu. Cette phrase, rendez à César ce qui est à César, elle a dépassé nos murs, hein. C'est une phrase que beaucoup connaissent. Et on l'utilise effectivement pour parler des impôts. Alors ça nous pose la question à nous. Quelle attitude avons-nous quand il s'agit de payer l'impôt ? On est dans une période, et si vous suivez l'actualité, vous avez entendu, les impôts vont augmenter. Parce que la France va mal. Tout le monde va être mis à contribution avec des hausses d'impôts. Tout le monde. Alors, c'est Rémi là, qui nous a rappelé des chiffres la semaine dernière à Gramma. Est-ce que vous connaissez la dette de la France, à combien elle s'élève ? 3200 milliards. 3200 milliards. Nous, on doit chercher une économie de 60 milliards, hein, pour commencer. Et la dette mondiale, est-ce que vous avez une idée à quoi elle s'élève ? 100 000 milliards. 100 000 milliards. C'est incommensurable. Il faudrait des siècles pour rembourser une telle dette. Est-ce que ça veut dire que c'est bon, de toute façon, c'est peine perdue, on n'a pas besoin de la payer ? Non, c'est pas ce que nous enseigne ce texte. C'est pas une raison pour ne pas la payer. Pour ne pas payer l'impôt. Même si nous pouvons ne pas toujours approuver la politique du gouvernement, hein, n'empêche que cette règle, rendez à César ce qui est à César, elle est toujours valable. Il y a une parole dans 1 Corinthiens 3, verset 21, de l'apôtre Paul qui disait à l'église de Corinthe, tout est à vous. Cette parole est parfois mal comprise par certains frères et sœurs. Tout est à nous, donc on ne doit rien à personne. Tout est à nous, on n'a pas besoin de payer l'impôt, on se sert, on prend les choses au travail, tout est à nous. Rendez à César ce qui est à César, et à Dieu ce qui est à Dieu. Si on considère que si on prend cette parole pour justifier ne pas payer l'impôt ou ne pas déclarer à l'URSSAF ses revenus, c'est du vol. À cause de cette parole, rendez à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Alors ne vous inquiétez pas, personne n'aime payer. Et je peux vous dire, quand vous avez un petit salaire et qu'il faut payer 25% une fois tous les trimestres à l'URSSAF, vous calculez. Mais il faut le faire. Et d'expérience, vraiment d'expérience, on n'est pas perdant. On n'est pas perdant. Ce qu'on donne d'un côté, on le retrouve de l'autre. Donc ne vous inquiétez pas si ça vous coûte de payer l'impôt. Ne nous inquiétons pas en nous soumettant à Dieu qui a dit « Rendez à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. » Nous ne manquerons de rien. Nos impôts, évidemment, ils sont utiles. Ils servent à financer les hôpitaux, les routes, les aéroports, bien d'autres choses que nous utilisons. Donc nous avons donc une dette envers l'État que nos impôts servent à financer. Alors parfois nos impôts peuvent être mal utilisés. N'empêche que rendez à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Parce qu'il nous est demandé de prier pour les autorités. Ça veut dire que nos impôts soient bien utilisés. Je vais y revenir. Les devoirs envers Dieu et envers l'État ne sont pas incompatibles. Il y a deux extrêmes à éviter. Dire que, voilà, l'impôt, payer l'impôt, c'est quelque chose qui concerne le monde, ça ne concerne pas l'Église. Non. Une chose à éviter, c'est et ça se fait parmi les non-croyants. On a parfois une confusion entre ce qui concerne Dieu et ce qui concerne César, ce qui concerne la politique. J'ai entendu que un maire était venu avec son écharpe dans une église, dans une émission, et quelqu'un n'a pas manqué de lui dire « Mais il y a quelque chose qui ne va pas là. » Il était venu avec son écharpe de maire dans une église. Est-ce que là, on respecte ce qu'a dit Jésus, « Rendez à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. » Bien sûr que cet homme, il était le bienvenu dans l'église. Bien sûr. Et en même temps, eh bien, on devait... Il ne faut pas confondre les autorités. La loi 1905... Enfin, les devoirs envers Dieu et envers l'État ne sont pas incompatibles. Le croyant doit être soumis à son gouvernement pour autant qu'il ne lui demande pas des choses contraires à la loi de Dieu. Pour autant qu'il ne lui demande pas des choses contraires à la loi de Dieu. La loi 1905 de l'Église, de séparation de l'Église et de l'État, c'est une loi qui est bien faite. Qui est bien faite. Cette loi, pour résumer, et je ne suis pas convaincu que tout le monde la connaît, cette loi, mais pour résumer en quelques mots, dans cette loi dit que l'État doit rester neutre en matière de religion. L'État doit rester neutre en matière de religion. Et l'État doit protéger ses citoyens en favorisant le vivre ensemble. Ça veut dire, eh bien, oui, avoir une police, mettre de l'ordre là où il y a du désordre, respecter de manière à ce que l'ordre public soit respecté. Il y avait une conférence en 2015 organisée par le CNEF qui était très instructive là-dessus. Et vraiment, il y avait des choses que j'ai découvertes que je ne connaissais pas sur la laïcité. Aujourd'hui, le problème, c'est que la laïcité, elle est mal comprise. La laïcité, elle est déformée. Sous prétexte de laïcité, eh bien, certains en ont détourné le sens pour faire taire toute religion. Mais c'est pas ça la laïcité. C'est pas ça la laïcité. L'État doit être neutre et faire respecter la loi. Soumettons-nous donc, mais dans la limite de notre obéissance à Christ. Nos devoirs à l'égard de Dieu sont prioritaires. Et ça sera un bon témoignage devant les autorités si nous mettons Dieu en premier. Alors on peut se poser la question, comment reconnaître une bonne autorité ? Est-ce que c'est une autorité ? Est-ce que c'est une mauvaise autorité ? Comment reconnaître une bonne autorité ?
même si personne n'est parfait. Eh bien, la parole de Dieu nous y aide dans Romains chapitre 13, versets 4 à 7, que je vais lire. Comment connaître une bonne autorité avant de lire? Eh bien, cette bonne, lorsqu'elle œuvre pour le bien des gens. Une bonne autorité à l'œuvre pour le bien des gens. Je lis Romains 13, 4 à 7. Le magistrat est serviteur de Dieu pour ton bien. Il est donc nécessaire d'être soumis non seulement par crainte de la punition, mais encore par motif de conscience. C'est aussi pour cela que vous devez payer les impôts, car les magistrats sont des ministres de Dieu entièrement appliqués à cette fonction. Rendez à tous ce qui leur est dû, l'impôt à qui vous devez l'impôt, le tribut à qui vous devez le tribut, la crainte à qui vous devez la crainte, l'honneur à qui vous devez l'honneur. Voilà l'attitude à avoir envers les autorités. Prions donc pour nos autorités, qu'elles soient justes, pour notre gouvernement, notre président, même et surtout si nous ne sommes pas d'accord avec la politique menée. Prions pour nos autorités. Rendons donc à César ce qui est à César. Et je termine, est-ce que nous rendons à Dieu ce qui est à Dieu? Rendons-nous à Dieu ce qui est à Dieu, qui est le maître, le seigneur de la vigne. Si le denier est à l'effigie de César, nous autres, les humains, nous sommes à l'effigie de Dieu. C'est lui qui nous a créés. Il nous a créés à son image. Nous sommes tous à l'effigie de notre créateur, qui veut être notre propriétaire, dans le bon sens du terme. Mais l'homme n'a pas voulu se soumettre à Dieu, à son propriétaire, il a préféré se soumettre à qui? À Satan. Ce qui a valu à chacun de nous une dette beaucoup plus grande que la dette mondiale de 100 000 milliards. Nous avons tous une dette envers Dieu que nous ne pouvions pas rembourser. À cause de notre insoumission, parce que la soumission est due au propriétaire. Qui pouvait payer une telle dette pour nous restituer à Dieu? Eh bien son propre fils. Son propre fils Jésus qui n'avait pas un denier sur lui. Eh bien, il a payé. Lui qui n'avait pas un denier sur lui, il a payé de son propre sang, précieux, qui vaut beaucoup plus que 100 000 milliards, par sa mort sur la croix. Il est ressuscité, sa résurrection est la preuve que le prix payé pour nous restituer à Dieu est suffisant. Pour nous restituer à notre propriétaire, notre créateur, en croyant en son Fils. Jésus a payé pour nous rendre à Dieu et que nous devenions héritiers avec l'héritier, avec son fils Jésus. Et là, nous pouvons être sûrs que la vigne donnera du fruit, parce que le sang du propriétaire a été foulé au pressoir. Le croyant reçoit alors le Saint-Esprit comme signe qu'il appartient à Dieu. Nous avons changé de propriétaire, nous n'appartenons plus à Satan, nous appartenons à Dieu, lorsque nous avons accepté son fils Jésus. Et alors, et seulement alors, nous pouvons rendre à Dieu ce qui lui est dû en nous soumettant à lui, par son esprit, et en ne nous soumettant plus ni à Satan, ni à notre propre chair. La soumission est due au propriétaire. Ça a été rappelé ce matin. Nous avons un combat en nous-mêmes. Soit nous nous soumettons à notre chair, aux passions de notre chair, au péché, soit nous nous soumettons à Dieu qui nous a rachetés. C'est un combat qui est encore réel dans la vie du chrétien. Eh bien, la soumission est due au propriétaire. Lorsque nous sommes devenus chrétiens, nous avons autorité sur notre propre chair. Notre chair nous appartient. Nous avons autorité sur notre propre chair. Alors elle ne doit pas dominer sur nous. Nous avons autorité sur notre chair. Amen, je vais prier. Seigneur, je te remercie, Seigneur, parce que tu nous as tout laissé dans ta parole pour vivre dans ce monde, un monde qui t'a rejeté, Seigneur, un monde qui t'a rejeté, et non seulement les non-religieux, mais les religieux aussi t'ont rejeté, Seigneur, lorsque tu es venu. Seigneur, merci parce que toi, tu vois dans les cœurs, et que vraiment nous te laissions faire, Seigneur, dans notre vie, et que nous sachions, Seigneur, nous soumettre, oui, que nous avons besoin, Seigneur, que tu nous brises, Seigneur, et que tu disposes nos cœurs à nous soumettre à toi, parce que tu es le meilleur propriétaire, tu es le meilleur maître qui soit, parce que tu es devenu notre Père. Seigneur, oui, que tu disposes nos cœurs à nous soumettre à toi, parce que tu nous aimes, Seigneur. Et merci parce que tu nous as fait changer de maître. Nous sommes devenus, Seigneur, enfants de Dieu. Et que tu nous as fait héritier avec ton Fils. Tu nous as donné, Seigneur, ce que nous n'avons pas eu à payer. Tu nous as donné tout, la vie éternelle en Jésus-Christ. Amen.